La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Certains le considèrent comme un semeur de panique, lui se dit juste lucide, il nous invite à réagir. Nous recevons ce soir Paul Jorion.
Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Mizin.
Alors Paul Jorion, bonsoir.
Bonsoir.
On va essayer de vous présenter de la manière la plus complète possible. Vous êtes sociologue, anthropologue de formation, professeur à l'Université catholique de Lille, mais vous avez aussi travaillé très longtemps dans le monde de la finance et vous avez été le premier, un des seuls d'ailleurs, à avoir prédit la crise des subprimes aux États-Unis, dès 2005 déjà. Alors foncièrement anticapitaliste, vous dites depuis plusieurs années déjà que le capitalisme mène l'humanité à sa perte. Écrivain prolifique, vous avez écrit plusieurs essais en 2017, dont l'un sur lequel on va s'attarder un peu plus spécifiquement ce soir, « Vers un nouveau monde », publié à la Renaissance du livre. Alors, donc, dans vos livres, on voit que vous dressez un portrait quand même fort sombre de notre monde. Dans « Le dernier qui s'en va éteint la lumière », vous avez même prédit l'extinction de l'humanité d'ici 2 à 3 générations, si rien n'est fait pour protéger la planète. Alors, est-ce que vous êtes vraiment un semeur de panique, comme certains vous présentent ? Ou aime à vous présenter en tout cas.
Non, je ne crois pas. Ce chiffre de 2 à 3 générations, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là, je me suis contenté de lire ce qu'on écrit, ceux qui écrivent des scientifiques, des physiciens, des climatologues, des chimistes. Ce n'est pas un chiffre qui m'est venu à moi-même spontanément. Et je dirais que mon tempérament aurait résisté très fort à cette idée d'extinction s'il n'y avait pas cette multitude de scientifiques sérieux qui nous disent que si nous ne bougeons pas, si nous continuons exactement sur les rails où nous sommes, eh bien, le danger, effectivement, est à cette échéance-là. Et il suffit, en fait, de regarder les journaux. On nous parle de 2 degrés de plus à la fin du siècle, 3 peut-être, certains parlent de 6. Ce sont des bouleversements énormes et c'est pas simplement, je dirais, des déplacements de population auxquels on assisterait. C'est effectivement la possibilité pour une espèce animale, et nous entraînerions sans doute dans notre chute bien d'autres, de disparaître simplement parce qu'elle a rendu impossible les conditions de vie à la surface de la planète où elle se trouve.
Mais quoi, vous êtes un peu comme un lanceur d'alerte alors finalement?
Oui, un lanceur d'alerte, de la même manière que quand je travaillais aux États-Unis dans le milieu du prêt hypothécaire, j'avais vu venir cette crise des subprimes et il y avait une différence un petit peu entre moi, je dirais, et mes collègues qui étaient des économistes, des comptables, c'était que j'avais justement cette formation d'anthropologue et de sociologue et que je suis allé voir tout de suite un petit peu qui étaient ces gens à qui on prêtait des prêts subprimes. Je suis allé voir dans le registre des faillites personnelles. Je suis allé regarder dans les recensements, etc. Et ce qui m'a permis effectivement de faire ce portrait d'une crise en train de se préparer. Ceci dit, bon, ce n'est pas, je n'ai pas un tempérament qui me conduirait à parler de catastrophe si je ne les voyais pas venir, tout simplement. Mais ma génération, les gens qui sont nés juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, nous vivons ce paradoxe que on nous a fait grandir, je dirais, quand on était petit, dans un monde où on a dit que le monde allait et rester comme il était pour toujours, que c'était formidable. Et tout à coup, nous avons vu non seulement les nuages se profiler à l'horizon, mais vraiment la tempête qui menace maintenant. Et on est passé de cette idée d'un monde qui ne posait aucun problème, où tout le monde était heureux, à un monde qui est menacé par la disparition.
Alors, une des choses qui menace l'humanité, selon vous, c'est le système capitaliste. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'après avoir travaillé autant d'années dans le monde de la finance, après avoir été vraiment au cœur de la structure capitaliste, vous y soyez aussi opposé aujourd'hui ?
C'est-à-dire que, bon, moi, je suis une formation surtout d'anthropologue. Je regarde les sociétés humaines, je regarde comment elles fonctionnent, je regarde comment elles justifient à leurs propres yeux la manière dont elles fonctionnent. Et c'est à partir de cela que j'ai vécu, disons, cette expérience d'être banquier. Mais le fait de travailler dans ce domaine, parce qu'on m'a demandé d'y entrer, n'était pas, je dirais, une manière de cautionner tout ce qui s'y passe. D'une certaine manière, j'avais une représentation de la manière dont la finance fonctionnait et d'y avoir travaillé 18 ans, je dirais, ma vision est devenue de plus en plus noire parce que On est uniquement là dans une logique de profit. Chacun essaye de vivre dans cette perspective-là. Ça permet un excellent travail, je dirais, dans cette perspective-là. Et on travaille en équipe et ça peut être parfois formidable. Et les problèmes à résoudre sont des problèmes très compliqués. Mais c'est une perspective. Ce monde de la finance, c'est un monde qui nous entraîne droit dans le mur. C'était finalement pas l'opinion que j'avais avant d'y entrer, mais là, je m'en suis convaincu. On ne se préoccupe que d'une chose, c'est de la marge bénéficiaire. Et ça ne permet pas à notre monde, à nos civilisations de continuer à vivre. Ça entraîne une destruction totale de l'environnement autour de nous. Mmh. On nous parle de cette main invisible dont Adam Smith avait parlé au départ. On nous dit, c'est formidable, ça permet, chacun s'occupe de son intérêt propre et ça fait fonctionner le monde. Oui, ça fait fonctionner le monde quand tout va bien. Mais on l'a vu dans les cas de crise, quand chacun poursuit son intérêt égoïste et quand tout le monde court vers la sortie, à ce moment-là, ça précipite en réalité la fin de partie, la catastrophe générale.
Il y a une image qui m'a assez marquée dans votre livre « Vers un nouveau monde ». Vous comparez le capitalisme à la colonisation et vous écrivez « La colonisation s'est étendue à l'ensemble de la planète, mais l'occupant porte aujourd'hui le visage d'un petit groupe de capitalistes au pouvoir infini ». C'est une image forte quand même, ça.
Oui, c'est parce qu'en fait, nous sommes, si on veut nous comparer en tant qu'espèce, et ça l'anthropologue doit le faire aussi, l'espèce humaine, la comparer à d'autres espèces animales, eh bien, notre comportement est un comportement qu'on appelle colonisateur. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le colonialisme. Ça veut dire simplement que nous avons tendance, comme d'autres espèces, à envahir entièrement notre environnement. Et alors, des espèces colonisatrices, comme les rats, comme les lemmings dont on parle parfois, ces espèces colonisatrices, elles n'ont pas d'autre comportement quand elles ont épuisé leur environnement que d'essayer d'en trouver un autre. Et quand ce sont des petits campagnols comme les lemmings, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se mettent à courir en masse en essayant de trouver un endroit où, par exemple, en passant le col au-dessus d'une montagne, de trouver une vallée qui est là où il n'y a pas de lemmings et on va pouvoir vivre en paix pendant un certain temps. Le problème, c'est que nous avons une seule planète et nous l'avons entièrement colonisée au sens de ces espèces. Et maintenant, nous n'avons pas d'autre choix que de trouver d'autres planètes pour aller vivre ou bien de modifier notre comportement. Et malheureusement, le système capitaliste, vous le savez bien, c'est un système où il n'y a pas de frein, il n'y a pas de retour en arrière, c'est uniquement un système de fuite en avant.
Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le seul à dire qu'il faut changer les choses, qu'il faut changer la manière dont on vit aujourd'hui. On voit qu'il y a eu un vrai engouement en tournant un film comme Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Il y a des petites initiatives locales qui naissent, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces initiatives soient à un niveau plus global ?
Mais il y a des gens qui ont la possibilité d'agir à un niveau plus global. Si vous pensez aux Panama Papers et aux Paradise Papers, dont on a parlé récemment. Il y a des gens qui sont là et qui vont creuser à l'intérieur du fonctionnement de ce système capitaliste et qui nous font monter en surface pour nous montrer comment ça fonctionne véritablement. Ce sont des gens qui ont d'autres moyens qu'un anthropologue qui peut, je dirais, lancer l'alarme, tirer la sonnette. Il y a des gens qui sont à l'œuvre maintenant pour essayer de renverser les choses à d'autres niveaux. Voilà, chacun fait comme il peut. Celui qui considère que la seule chose qui soit à sa portée, ce soit d'avoir un jardin d'un potager et d'essayer de se nourrir davantage des légumes qu'il fait pousser, qu'il ou elle fait pousser, très bien, parfait. Celui qui a les moyens, parce qu'il a une grande fortune, de financer une opération comme ces opérations qui nous font apparaître l'évasion fiscale à l'échelle où elle a lieu, et les sommes considérables qui sont volées aux États et qui pourraient être utilisées à des choses intéressantes, voilà, chacun utilise le système tel qu'il le trouve autour de lui pour faire les choses comme il peut.
Mais est-ce que du coup, on n'a pas tendance aussi à réagir un peu trop mollement et à pas prendre les choses à bras le corps ?
D'abord, la première chose, c'est que nous avons du mal à nous représenter des grandes catastrophes qui auront lieu à l'avenir. Nous sommes un mammifère, c'est-à-dire que nous réagissons très bien à des dangers que nous pouvons conceptualiser. Si on nous a montré quand on était petit un serpent en disant « surtout ne touche pas à ça », la prochaine fois qu'on voit un serpent, on aura un mouvement de recul. Mais nous dire l'extinction de l'humanité, eh bien, c'est très difficile pour nous de nous représenter ce qu'on pourrait faire. Une autre chose qui nous est extrêmement difficile, c'est de savoir à quelle échelle, à quelle chronologie, à quelle durée nos comportements changent. Les gens me disent souvent, oui, tout le monde devrait conduire un vélo plutôt que d'utiliser une voiture, chacun devrait avoir un potager à la maison, mais ça prendrait peut-être des centaines d'années avant que les comportements puissent véritablement changer à cette échelle-là. Et ça, il faut le savoir que il faut utiliser quand même comme référence ce chiffre de 2 ou 3 générations. Une génération, on compte que c'est 30 années. 2 générations, c'est 60 ans. 3 générations, c'est 90 ans. C'est ça, dans cet horizon, à cet horizon-là, qu'il faut essayer de modifier nos comportements. Et des choses qui prendraient beaucoup plus de temps que cela, c'est peut-être pas, je dirais, nécessaire d'y accorder trop d'attention parce que ce sera trop tard.
Mais et des propositions d'ailleurs concrètes pour changer les choses, vous en avez? Parce que dans votre livre Vers un nouveau monde, vous décrivez en fait dans un premier temps le monde tel qu'il est, c'est assez sombre, il faut le dire, et ensuite le monde tel qu'il devrait être selon vous. Et donc là, vous pointez vraiment des propositions assez concrètes à la fin de chaque chapitre, parce que vous voulez aussi aller justement dans le concret et ne pas rester dans des choses un peu plus philosophiques.
Oui, ça c'est parce que ce livre, en fait, vous l'avez vu, et c'est le fruit de réflexions avec Michel Jadot et Jean-Pascal Labi de Solidaris. On s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut écrire quelque chose. Et moi, j'ai tendance à parler, je dirais, de choses un peu plus au niveau théorique ou de la réflexion. Et là, on s'est dit, il faut proposer des mesures, proposer des choses qu'on puisse faire, comme justement revenir à la gratuité, comme on l'avait fait autrefois, je dirais, de manière massive sur la santé et l'éducation, revenir à la gratuité intégrale dans ces domaines, mais aussi peut-être l'étendre à d'autres domaines, comme par exemple au transport en tout cas dans les environnements immédiats, sur le logement, qu'il y a au moins la possibilité pour chacun de se loger au minimum, d'étendre un système comme on utilise aux États-Unis, qui n'est pas un mauvais système, qui ressemble un peu au chèque repas, les food stamps, c'est-à-dire que les gens qui ont des difficultés à se nourrir, eh bien qu'on leur donne des bons simplement qu'ils peuvent échanger dans les magasins, pas contre du whisky bien entendu, mais qui peuvent échanger contre des nouilles, contre des pommes de terre, contre des boissons et ainsi de suite. Pensez, oui, à des choses comme cet État-providence. Cet État-providence, nous y tenons énormément. C'est quelque chose qui a été obtenu par des luttes, ça a été obtenu parce que nous sommes devenus riches, mais nous sommes toujours aussi riches que nous l'étions à l'époque où nous avions cet État-providence. Le seul problème, c'est que la concentration de la richesse, qui fait que la richesse a tendance à se déplacer, à aller là où elle existe déjà. Pourquoi? Parce qu'on verse des intérêts, parce qu'on verse des dividendes, parce qu'il y a de la spéculation. Tout ça fait que celui qui a de l'argent, l'argent attire l'argent et la concentration devient extraordinaire. Vous savez ce chiffre dont parle Oxfam, mais c'est un vrai calcul. 8 personnes qui disposent des mêmes ressources que la moitié la moins riche de l'humanité, 3,7 milliards de personnes.
Contre 8 personnes, oui. 3,7 milliards d'un côté et 8 personnes.
Et il faut se rendre compte ce que c'est que 3,7 milliards, c'est 3,7 multiplié par 1000. Multiplié par 1000 et multiplié par 1000 une troisième fois. Je dis souvent, si un extraterrestre revenait sur la Terre et disait quel est votre système économique, et on lui donnait ce chiffre, 8 contre 3,7 milliards, ébahi, il nous dirait comment voulez-vous qu'un système comme ça fonctionne? Et moi, je me contente de dire la même chose que dirait cet extraterrestre.
Alors, je vous propose, avant de continuer sur les solutions et les pistes que vous proposez, des pistes concrètes de réforme, je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors, je vous ai demandé votre choix musical du jour. Vous m'avez dit « What a Wonderful World » de Louis Armstrong. Pourquoi ce choix?
Eh bien, parce que ça dit exactement ce que dit ce livre « Vers un nouveau monde ». Quel monde merveilleux nous pourrions avoir.
Ouais,
depuis que nous réfléchissons, nous avons créé des religions et ces religions nous ont parlé de paradis terrestre. Et nous ont dit, ce paradis, il est là quelque part. On nous a parlé du jardin d'Éden et puis nous avons fait quelque chose, soi-disant, et nous n'avons plus le droit d'y être. Mais on nous parle d'un paradis qui viendra après. Et même quand ce sont des révolutions qui essaient de changer les choses, on nous parle d'un monde qui viendra ailleurs, qui sera paradisiaque. Mais nous avons la richesse qui nous permet de le faire. Le problème, c'est uniquement de la répartition de cette richesse. Ces gens qui concentrent des fortunes extraordinaires, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens qui nous racontent, et ça c'est un bobard qu'il faut quand même dénoncer, que cet argent qu'ils disposent va ruisseler, va revenir à tout le monde. Mais l'économie ne fonctionne pas de cette manière-là. Et même si on imaginait que l'économie fonctionne de cette manière-là, la crise de 2008 nous a montré que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on a vu? Que les gens qui ont ces fortunes considérables, ils ne peuvent pas l'investir dans l'économie. l'économie. Il n'y a pas assez de demandes dans les populations. Les gens ne sont pas assez riches pour acheter tous les produits que cette économie produirait. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent cet argent. Et ils placent cet argent dans quoi? Dans ce qu'on appelle des hedge funds. Et comment est-ce qu'on appelle un hedge fund en français? On appelle ça un fonds spéculatif. C'est-à-dire que ces firmes vont aller spéculer avec cet argent-là. Et spéculer, qu'est-ce que c'est? Il faut bien savoir. La définition de spéculer, c'est un pari sur le fait qu'un prix va monter ou va baisser, ou un taux va monter ou va baisser. Et un pari, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un gagnant qui peut gagner des sommes extraordinaires, mais ça fait toujours un perdant. Et si ce perdant doit lui-même de l'argent à quelqu'un d'autre, ça produit un risque pour la société, pour le fonctionnement du système économique et financier, ce qu'on appelle un risque systémique, et ça conduit à des écroulements comme ceux de 2008. La spéculation est entièrement responsable de cette crise de 2008. J'étais à son cœur, je travaillais dans les entreprises qui ont conduit à cette chute massive. C'est la spéculation qui a conduit à cela. Mmh. Or, on considère, voilà, spéculer, c'est une chose plus ou moins sympathique. Quelqu'un me dit, j'espère que mes enfants réussiront bien aux examens, c'est une manière de spéculer. Bien entendu que non, ça n'a rien à voir avec la spéculation. Ou je vais acheter une maison, j'espère que le prix va monter. Mais non, ça n'a rien à voir avec la spéculation. La spéculation, ce sont des paris sur le fait qu'un prix monte et descend. C'est introduire artificiellement un risque dans l'économie qui n'était pas là. Vous allez entendre des économistes qui vont dire, non, un pari, c'est un transfert de risque. Mais absolument pas. Si nous parions, vous et moi, sur le fait qu'il va pleuvoir demain et que nous parions un million d'euros, l'un de nous va perdre. C'est 1 million, ce risque de perte de 1 million, il n'existait pas avant que cette idée farfeline nous passe par la tête. C'est ça la spéculation.
Mmh. Oui, d'ailleurs, vous demandez, enfin vous êtes clairement contre la spéculation et pour son interdiction.
Tout à fait.
Mais du coup, je vous propose qu'on écoute un petit extrait de What a Wonderful World de Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Toujours dans Libre Ensemble et nous sommes ce soir avec Paul Jorion, anthropologue, sociologue, pour parler notamment d'un de ses nouveaux livres qui s'appelle « Vers un nouveau monde ». Alors, dans ce nouveau monde, vous en avez déjà parlé un petit peu, vous souhaiteriez que tout ce qui est indispensable, tout ce qui relève de l'indispensable soit gratuit. Alors j'ai quand même une question, c'est que ce qui est indispensable pour vous ne l'est peut-être pas pour moi, et du coup, est-ce qu'on ne perd pas quand même une certaine forme de liberté avec un système comme celui-là?
Non, parce qu'un biologiste, il regardera notre espèce et il pourra définir ce qui est indispensable. Nous pouvons dire, moi j'ai besoin d'un château en Espagne en plus que ça, parce que je veux être meilleur que tout le monde. Non, l'indispensable, c'est ce qui nous permet de nous lever le lendemain matin et de recommencer à vivre une journée supplémentaire. Donc ce n'est pas difficile en réalité à définir. Il y a le superflu et il y a le nécessaire. Bien entendu, les définitions doivent être modifiées de temps en temps, parce que les choses évoluent. Si on nous avait dit qu'une machine qui prend à la fois des photos, qui nous permet d'écrire des lettres et de les recevoir, qui est une boussole et une lampe de poche, si on nous avait dit, je ne sais pas, il y a 50 ans qu'un jour on considérait que c'est indispensable de l'avoir, ça nous aurait paru absolument farfelu. Mais maintenant, quand les administrations vous demandent de pouvoir vous connecter à l'Internet, bientôt qu'on fera comme en Chine, c'est-à-dire que c'est avec notre téléphone qu'on achètera dans les magasins, et peut-être qu'on ne devra même pas signer parce que la machine reconnaîtra notre visage. Tout ça se fait déjà en Chine, donc ça se fera un jour chez nous. Avoir ce genre de connectivité, maintenant pour nous, c'est devenu l'indispensable. Donc il faudrait effectivement que tous les 5 ans, on redéfinisse ce qui est indispensable. Et si, par exemple, des mesures sont mises en place, comme ça a été dans le cas, que les salaires soient payés par une banque et pas simplement vous soient donnés en main propre sous forme d'argent liquide, que la définition de l'indispensable s'adapte évidemment à ce qu'on attend de la part des gens. Mais sinon, pour le fait de pouvoir, dormir dans un endroit où il fait suffisamment chaud, avoir assez à manger pour pouvoir se relever le lendemain matin, non, la définition de l'indispensable, à mon sens, elle n'est pas difficile. Mmh. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre récemment par University College, et ils ont fait une liste de l'indispensable pour les citoyens britanniques en ce moment. Et ils ont fait des calculs, ils ont regardé comment ça pouvait marcher. Un chiffre intéressant, c'est que étendre la gratuité de la manière dont je l'ai définie, par hasard, leur définition est exactement la même que celle que je défendais, ça coûte 1/6 de ce que coûterait un revenu universel de base,
oui,
dont on parle beaucoup.
Oui, et vous étiez d'ailleurs assez pour au départ, et maintenant vous ne l'êtes plus par rapport au revenu universel.
Non, j'ai réfléchi, j'étais pour, parce que bon, dans le milieu, je dirais, de sociologues, en particulier autour de du mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, on était très pour cette idée du revenu universel de base il y a quelques années. Mais mon expérience d'avoir travaillé 18 ans dans la finance et savoir que des sommes qu'on donne simplement aux gens, il y a une tentation de prédation pour le système autour de nous, pour ce système capitaliste. Il a toujours tendance à prendre cet argent qu'on donnerait en plus aux gens, mais aussi simplement le marché. On a connu les époques où il y avait un saut d'index et tout à coup les gens recevaient, 200 euros de plus ou des 2000 francs de plus à l'époque, et aussitôt le prix des loyers augmentait de cette somme-là. Donc il faut protéger ces sommes-là. Ou alors, on nous disait au 19e siècle, il faut pas augmenter le prix, il faut pas augmenter la paye des ouvriers parce qu'ils vont aller boire la somme supplémentaire. C'était pas vrai pour la quasi-totalité d'entre eux, mais c'est vrai qu'il y en avait qui allaient boire une petite minorité qui allait boire l'argent qu'on leur donnait en plus. Alors il faut éviter les tentations, genre il faut les éviter d'utiliser des sommes qu'on leur distribue comme ça à des mauvais usages. Mais aussi et surtout dans le cas du revenu universel, pourquoi est-ce que la gratuité ne coûte qu'un 1/6 du revenu universel de base? C'est parce qu'on distribue les mêmes sommes à des tas de gens qui, en fait, heureusement, nos sociétés sont suffisamment riches pour que pour des tas de gens, ces sommes qu'on donnerait, ce seraient des sommes en plus dont finalement il ne serait pas grand-chose, pas quoi faire. Et alors, dans le cadre consumériste de nos sociétés, on nous encourage à acheter ceci, cela, sans raison particulière, ces sommes seraient utilisées pour acheter des choses qui ne seraient pas nécessaires. Et nous le savons, dans notre cadre, et ça c'est un des grands défauts du système capitaliste, c'est qu'il ne comptabilise pas la destruction de la planète qu'il fait. On appelle ça les externalités négatives. Le prix de remplacement des choses que l'on détruit, il n'entre pas dans le calcul des prix qui circulent en ce moment. Et ça, c'est un des grands dangers aussi.
Alors, on va changer un petit peu d'axe, on va parler un peu de politique. Dans le livre, de nouveau, vous parlez du fait que, pour vous, le changement doit venir des citoyens. Au départ, d'ailleurs, vous étiez assez curieux de ce que pouvait donner une initiative comme En Marche, je pense, en France, d'Emmanuel Macron. 6 mois après son accession au pouvoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un mouvement citoyen, ou est-ce que ça a été... on a repris ce terme pour quelque chose qui ne l'est pas? Et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, du coup?
Ah oui, non, ce mouvement de M. Macron, il soutient un programme qui est un programme ultralibéral. Donc justement, c'est un programme, je dirais, d'amélioration, parfois même en cours d'exagération, de ce système dont je dis qu'il nous conduit dans le mur.
Donc c'est clairement pas le bon.
Non, à mon sens, ce n'est absolument pas le bon système. Ce monsieur est un monsieur intelligent, c'est un monsieur qui est compétent dans son domaine de la banque, mais comme je l'ai dit, il est compétent dans un domaine de la banque et dans une perspective qui est extrêmement dangereuse pour l'espèce, parce que cette main invisible d'Adam Smith, elle peut conduire à ce que la société marche bien dans l'ensemble, mais elle nous empêchera absolument pas d'aller à la catastrophe. Et non, ce mouvement d'en marche, ce qui est apparu, c'est intéressant d'une certaine manière, c'est que dans les situations où nous sommes, où la pensée, je dirais, de type socialiste, de type classique, n'existe pratiquement plus, il y a un choix pour les citoyens entre un système ultralibéral extrêmement dangereux et un autre, d'autres choix extrêmement dangereux aussi, qu'on appelle populistes, qu'il faudra appeler plutôt démagogues, et qui, eux, en général, ces systèmes démagogues, ou bien ils utilisent, on l'a vu dans le passé, des solutions absolument catastrophiques et puis qui peuvent conduire même à des génocides, ou plus souvent, ils n'ont simplement pas d'idée sur ce qu'il faudrait faire. Non, ce qu'il faut, il faut absolument renouveler une pensée positive. Malheureusement, les germes ne sont pas là. Ils ont existé dans la réflexion de type socialiste, mais je dirais personnellement socialiste non communiste, parce que là aussi, on a vu les dérives vers lesquelles on pouvait aller. Il faut, à mon sens, renouveler cette pensée socialiste. Malheureusement, elle a dérivé. On a connu des horreurs, des gens qui se disaient dans ce courant-là et qui se conduisaient tout à fait au contraire.
Mais alors comment justement transformer ces mouvements citoyens qui naissent un petit peu partout en des vrais mouvements citoyens politiques qui fonctionnent comme vous souhaiteriez que ça fonctionne ?
Oui, j'ai l'impression, j'ai vu il y a quelques années là, le départ de toute autre chose, c'était extrêmement prometteur. J'ai participé à Paris, je suis intervenu moi-même faire un discours là à la Nuit Debout. Il y a dans les populations la possibilité de se rassembler autour d'idées positives, de changer les choses. Et c'est un peu l'idée de ce livre vers un nouveau monde, d'un rassemblement et de, par exemple, pour les élections européennes, de défendre un programme de celui-là pour un renouveau. Mais il faut bien entendu qu'il n'y ait pas que des gens de mon âge, il faut que des jeunes aussi qui participent à ça et qui portent ces idées. Mais dans les discussions que j'ai avec mes enfants, j'ai l'impression que ces idées sont effectivement extrêmement porteuses. J'ai encore eu hier soir avec un de mes fils une longue discussion et il porte sans avoir participé à la rédaction de mon livre, il porte les mêmes idées que celles qui sont défendues là.
Donc il y a moyen de les concrétiser, c'est réalisable, c'est pas une utopie.
Non, c'est réalisable, mais ce qui est dangereux, à mon avis, je bénéficie de quelque chose, de ces 18 années d'expérience dans la banque et dans la finance, c'est que je sais comment un système fonctionne et qu'il ne s'agit pas de dire on jette toute la finance à la poubelle ou alors on fait les choses tout à fait autrement. Non, c'est un système qu'on a appelé le système sanguin de l'économie, mais c'est une très bonne, je dirais, définition, mais là-dessus est venu ce greffe. Fait, comme le disait Jack Keynes dans les années 30, l'activité d'un casino. Et on est dans la situation où c'est l'activité du casino qui dirige tout le reste. Il faut enlever l'activité du casino, rendre à la finance son rôle de système sanguin de l'économie. Mais pour ça, il faut savoir comment ça marche. Parce que j'entends beaucoup, et ça j'entends ça beaucoup du côté, je dirais, de certains écologistes, etc., des idées tout à fait farfelues, tout à fait mythiques sur le fonctionnement de la monnaie, sur le fonctionnement de la finance. Non, ça marche, c'est un système qui marche d'une certaine manière. La monnaie, il faut comprendre comment ça marche pour en parler, et ainsi de suite, mais il faut le faire. Monsieur Varoufakis, en Grèce, il était allé dans la bonne direction. Il avait mis en place un système qui aurait pu marcher. Malheureusement, la Troïka, c'est-à-dire nos représentants, Banque Centrale Européenne, Commission Européenne, Fonds Monétaire International, l'ont empêché de le faire, mais ce n'est pas une mauvaise idée ce qu'il avait en tête. Et d'ailleurs Keynes aussi, un système de compensation internationale fondé sur une monnaie, mais qui serait fondé sur l'équilibre, pas de la guerre de tous contre tous, qu'on essaye de nous vendre, et on nous dit il n'y a que la concurrence qui peut marcher, il n'y a que la compétition qui peut marcher, et du coup que font tous les pays, même à l'intérieur de l'Union Européenne, même à l'intérieur de la zone euro, chacun de ces pays spécule contre les autres, essaye de faire tomber les autres, essaye de voler l'argent que les contribuables devraient payer normalement dans la caisse commune. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire une union qui est fondée sur une compétition à couteau tiré entre les membres. Ça, il faut réformer, bien entendu.
Oui, d'ailleurs, vous demandez effectivement un euro plus fort et plus de collaboration entre les pays de la zone euro. Mais en tout cas, on pourrait continuer à en parler longtemps, mais c'est déjà la fin de cette émission. Donc, en tout cas, un grand merci à vous de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. Je pense que même si la description du monde peut être assez sombre, vous avez quand même des pistes d'espoir et en tout cas, il faut solliciter les gens pour qu'ils bougent. Alors, je voudrais juste donner les titres de vos derniers livres. Donc, il y avait Le dernier qui s'en va éteint la lumière, donc essai sur l'extinction de l'humanité, publié chez Fayard donc l'année passée. Se débarrasser du capitalisme est une question de survie. Donc ça, c'était publié en 2017 chez Fayard toujours. À quoi bon penser à l'heure du grand collapse? Donc ça, c'est un livre d'entretien. Donc on vous pose des questions à vous. Donc publié aussi en 2017. Et enfin, ce dernier ouvrage dont on a parlé beaucoup dans l'émission, Vers un nouveau monde, publié à la Renaissance du livre en collaboration avec Solidaris. Voilà, on incite tout le monde à lire tout ça pour nourrir la réflexion. Merci encore, Paul Jorion, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.